Balado 96.9. Inspiration Inc. Présenté par la Banque Nationale.
Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule d'Inspiration Inc. Imaginez-vous à être condamné à ne plus avoir la liberté de vous déplacer. Eh bien, grâce à une entreprise technologique de Québec, vous pourriez retrouver enfin une qualité de vie. Ça s'appelle de la biorobotique. Et pour nous en parler, eh bien, Philippe Richard Bertrand est avec moi. Comment ça va, Philippe?
Très bien, toi?
Très bien, merci. Parle-nous de l'entreprise Bétémia.
J'ai regardé un reportage avec mes enfants à la télévision, puis j'ai vu un pompier qui avait comme un habit de Iron Man.
Ouais.
C'est vraiment. Puis là, mes enfants étaient captivés sur l'écran parce que ils me demandaient si c'était Iron Man.
Un vrai robot.
Ouais, un vrai robot. Puis c'est un gars qui a perdu une jambe au combat au feu, qui essayait un appareil qui lui redonnait de la force et de la motricité. Puis là, tout de suite, je capotais, je disais, hey, on est rendu là. Puis là, j'ai bien entendu fait des recherches sur Internet. Tombe sur Bétémia à Québec, qui semble avoir une avancée mondiale. Ils sont un des premiers. Tout simplement parce que le président qui l'a fondé, il a un doctorat en biomécanique. Tu sais, c'est un de nos chercheurs au Canada reconnu depuis 25 ans dans ce domaine-là. L'historique du parcours de cet entrepreneur-là est impressionnante. C'est un athlète de haut niveau, OK, il y a plusieurs années, qui s'est blessé après avoir fait du vélo de montagne de course.
OK.
Puis il étudiait en plus à son doctorat en biomécanique. Puis il s'est juste dit, on est capable d'envoyer un satellite sur Pluton. Mais pourquoi qu'on n'est pas capable de mettre un dermosquelette, un exosquelette sur quelqu'un pour l'aider à marcher? Puis il a lancé cette idée-là, puis il est en train de le faire.
Eh bien, on rencontre le président fondateur de Bétémia, M. Stéphane Bédard.
Inspiration Inc. Portrait d'entreprise.
Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonne journée.
On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui parce que vous avez toute une entreprise entre les mains, une entreprise québécoise. Parlez-nous un peu de ce que vous faites dans la vie.
Bétémia et mon équipe, on s'est affairé depuis 6 ans à développer une nouvelle génération d'appareils pour assister la mobilité des gens qui en perdent, ou aussi d'arriver à protéger la santé biomécanique des personnes qui travaillent très, très fort dans des contextes un peu exotiques. Donc, si on veut imaginer rapidement, là, c'est une structure mécanique qui se place sur le corps, qui est robotisée avec une intelligence artificielle puis qui est capable de renforcer la structure osseuse de l'individu.
Donc, une personne qui souffre d'une maladie quelconque, une personne qui a des problèmes de genoux pourrait acheter votre produit et faire en sorte que sa qualité de vie devienne meilleure.
En général, tous ceux qui perdent de la mobilité, peu importe la cause, l'appareil peut aider à maintenir cette mobilité-là.
Ça part de où, cette idée de faire des jambes bioniques?
C'est une rencontre que j'ai eue avec les forces canadiennes il y a 6 ans et demi. Toutes les armées américaines ou australiennes ou bien canadiennes cherchaient une solution au surplus de poids que les soldats portent.
Okay.
Donc, un soldat aujourd'hui porte environ 100, 125, 150, 200 livres de surcharge de poids, dépendamment des métiers, à tous les jours.
Hey.
Ces jeunes-là qui ont 25 ans, ben, se brisent le dos, se brisent les genoux, se brisent les hanches et tout ça, mais ils continuent. Et les soldats tombent au combat à cause de ces blessures-là musculo-squelettiques et non des balles.
Okay.
Un militaire, ça doit bouger très, très vite parce que des fois, il court pour sa vie.
Pour agir, oui.
Alors, ils sont venus me voir parce que j'avais fait ce genre de travaux-là dans le passé. Puis bon, ils disaient, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, j'ai dit, écoutez, je vais vous designer quelque chose de très, très différent. Et c'est ce qui est arrivé.
Donc, vous êtes un designer?
Je suis un biomécanicien. Donc, je fais des robots pour le corps humain. Donc, ça fait 25 ans que j'en fais. J'ai commencé ça avec mes études de doctorat à l'université. J'ai parti une entreprise dans l'an 2000 qui a réussi à faire la première prothèse de jambes motorisées au monde pour les amputés de guerre. Et bon, c'est à partir de là. Donc, en fait, oui, j'arrive à développer des nouvelles idées juste parce que, bon, je les reçois comme ça.
Puis après ça, y a-tu d'autres applications que militaires? Parce que j'ai vu là, qu'il y avait les gens aussi, là, du commun des mortels, qui se payaient ça.
Ah oui?
Il y a toujours le récréationnel, donc les gens qui n'ont pas de maladies précises, qui ont été diagnostiquées, mais qui veulent garder leur performance à 50 ans ou à 60 ans pour monter des montagnes, en fait, entre autres. L'appareil peut assurément aider ce genre d'activité-là. Donc, l'appareil s'utilise dans deux circonstances. Soit que tu es en perte de mobilité à cause d'une pathologie, ou bien tu vas faire des activités extrêmes. Par la suite, il y a le côté industriel, donc des travailleurs sur des lignes d'assemblage qui sont non robotisées. Alors, les personnes se blessent énormément, comme l'aéronautique, en fait, pour monter des moteurs ou monter des avions. Et l'appareil est aujourd'hui en test avec ces gens-là.
Combien vaut cette industrie là, de l'humain augmenté? Ça génère combien, ça, actuellement, là, au moment où on se parle?
Ça se compte en milliards, puis ça va augmenter drastiquement jusqu'en 2020-2025. C'est un air de travail qui est à ses débuts, en fait.
Eh oui, puis vous êtes un pilier là-dedans, là, dans le sens que vous faites avancer cette industrie-là.
Oui, on est quelques-uns au monde. Oui, quelques-uns au monde. 5 ou 6 à travers le monde qui ont réussi à développer cette techno et la rendre quasi commerciale ou commerciale jusqu'à maintenant.
Inspiration Inc. Si je veux faire pareil, je fais comment?
Vous avez parti donc cette idée, on vous a approché. Est-ce que c'est l'armée qui vous a financé pour démarrer? Comment vous êtes parti avec votre première jambe là, ou première structure?
Non, l'armée n'a jamais financé les travaux. Ils ont toujours été là pour tester l'appareil. Donc, ils ont investi beaucoup dans les essais pour nous faire progresser. Mais en fait, bon, j'ai toujours un bon réseau d'affaires puis des bons amis. Donc, lorsque j'ai eu l'idée et un support moral de l'armée, j'ai fondé Bethemia et j'ai présenté ce projet sur le papier, avec rien d'autre que du papier. Rencontre des investisseurs, on est capable de monter 1 million de dollars de financement, puis on le monte et on y va ensemble. Donc, le fait de présenter l'idée, le rêve d'arriver à changer le monde encore une fois, ça l'a plu encore, puis les gens m'ont vraiment fait confiance jusqu'à maintenant.
Je reviens, Stéphane, sur ce que tu disais au niveau du financement. Comment on garde cette flamme-là là, de toujours vouloir lancer une entreprise? T'sais, c'est pas ta première, puis tu t'es relancé dans l'arène, tu t'es réentouré avec du monde. On vit ça comment?
On dit souvent qu'on peut rien faire d'autre, en fait. On ne sait pas quoi faire d'autre que ça. Quand j'ai quitté ma première entreprise, c'était le temps de passer à d'autres choses parce qu'il n'y avait plus de mouvement. J'avais besoin de mouvement. Je suis plus un créateur opérationnel. Je crée des affaires, mais je veux aussi les opérer pour qu'ils arrivent à bon point. Il arrive à un moment donné que tu dois peut-être lâcher un peu les cordes parce que c'est rendu trop opérationnel. C'est ce qui est arrivé avec la première entreprise. J'ai pris 3 jours de congé, puis j'ai parti Bethemia. Donc, puis c'est ça. On était en fin de semaine. Fait que, tu sais, j'ai juste pris le samedi, dimanche, lundi. Ouais, en fait, faut pas le dire comme ça, là.
Ouais.
Je veux pas dire que c'est intelligent de le faire de cette façon-là, mais c'est sûr que c'est une belle chance d'avoir cette motivation-là. Quand tu es un peu organisé puis structuré et intègre dans ton travail, les gens commencent à te faire confiance, puis tu développes une idée, puis ça pogne passablement bien.
Parce que vous avez une équipe ou une personne à qui vous dites, OK, toi, tu t'occupes de, je sais pas moi, du marketing ou de l'aspect financier, ou est-ce que c'est vous qui chapeautez tous ces postes-là?
J'ai la chance d'avoir certaines capacités de faire un leadership sur l'ensemble de l'œuvre, mais quelque part, faut assurément, très rapidement, avoir des believers dans ton équipe. Et c'est pas facile à trouver non plus. Donc, il faut que tu cherches, tu fais des essais-erreurs, mais tu t'associes aux personnes avec les meilleures compétences, mais aussi un excellent fit personnel. Parce que, bon, on est souvent, on voit des bébites qui sont faciles à vivre. Entrepreneurs, c'est sûr. Tant au travail que dans la vie, on est des gens qui sont, d'après moi, un peu spéciales. Ma conjointe me dit souvent, tu es un médiataplier social.
Ah oui?
Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est vrai?
Oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Puis il faut que tu trouves ton chemin. Puis c'est ce qu'elle m'a enseigné, en fait, c'est que c'est d'arriver à trouver ton chemin dans la société pour arriver à faire un fit avec ce que tu es, puis ce que la société peut t'offrir, qu'est-ce que tu peux offrir à la société. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans un certain moule, donc on n'arrive pas à se placer dans des carrés ou dans des ronds que la société nous offre.
Dans ton parcours, qu'est-ce que tu ferais différemment ou qu'est-ce que tu fais aujourd'hui différemment que tu as fait dans tes premières entreprises?
Je pense que j'arriverais à écouter plus les autres. Au lieu de penser que je sais tout, souvent quand tu as des problématiques, il y a des gens qui vont être avec un trait de caractère qui vont dire « bon ben je vais pelleter le trou moi-même tout le temps ». À cause que je suis quelqu'un qui est capable de creuser des trous très, très puissamment, ben j'ai eu une tendance à le faire toujours moi-même. Ce qui est bon d'un côté, mais qui des fois peut-être nous amène peut-être à réfléchir que c'est peut-être pas le chemin le plus rapide.
La prochaine étape là, dans le futur pour Bethemia?
Assurément de concrétiser le procédé de commercialisation, ce qui n'est pas une chose facile. Parce que fabriquer une invention, la développer, la mettre au point, la rendre sexy pour les individus, la rendre utile pour la société, c'est une chose. Mais par la suite, il y a quand même un écart majeur entre l'acquisition d'affaires, c'est-à-dire un échange d'argent entre ce que tu vois pour offrir, est-ce que le marché peut te donner pour? C'est-à-dire que là, tu passes à la commercialisation, tu passes à développer tes clients, tu passes à développer ton développement d'affaires, tes stratégies de marketing. Bethemia aujourd'hui est à ce niveau-là, d'arriver à s'assurer qu'on va être en mesure d'avoir un succès franc et solide à travers cette phase, puis on met tous nos efforts à le créer.
Je veux m'acheter, moi, un appareil comme ça, combien ça coûte?
45 000 aujourd'hui.
45 000 $ donc le prix pour une jambe?
Non, pour l'ensemble.
Pour l'ensemble, donc.
Oui. Okay. Et le support technique et clinique inclus.
Inclus. Ouais. Et est-ce que dans 15 ans, ça pourrait être moitié prix?
Pas dans 15 ans, vraiment, dans quelques années. Lorsque le volume va être là, aujourd'hui, on en fait 15 par mois. Donc, c'est assez artisanal, très, très solide comme système de production, mais très artisanal encore. Et il y a beaucoup d'optimisation qui peut être faite.
Ouais, donc, ça doit être incroyable le nombre de variables qu'il y a.
C'est fou.
Parce que tu vas acheter un auto, là, bleu, noir. Dans son cas, là, la grandeur, le poids, il y a un gros mollet, pas gros mollet.
Oui,
je sais pas, ça doit être malade.
C'est le contraire. C'est une grandeur unique. En fait, il y a une boîte, puis on livre le Kyogo dans la boîte. On fait juste prendre les mesures anthropométriques bien ordinaires, small ou medium ou large. Simplement, le médecin ou le clinicien rapporte la petite feuille, c'est 3-4 cases à remplir. Et par la suite, c'est le même système aujourd'hui pour tout le monde, avec des grandeurs différentes qui nous prend 3 minutes à changer si on veut les changer quelque part. C'est un aspect qu'on a voulu aussi attaquer, c'est-à-dire qu'entre autres pour l'armée, on ne peut pas customiser le produit pour chaque soldat.
Non, ça serait trop compliqué.
Alors, on doit donner 10 boîtes à l'armée et selon le gabarit du soldat, bien, il y a tout dans la boîte
pour l'ajuster à lui.
À lui.
Ça doit être excitant là, de voir la lueur dans les yeux de quelqu'un qui change sa vie, là.
Oui, il y a des gens que ça fonctionne très, 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 très bien. Et c'est des miracles, en fait. Une jeune femme de 25 ans qui a subi un AVC à l'âge de 21 ans. Et sans le Kyogo, elle peut se déplacer, mais de façon très, très, très difficile. La montée des marches et la descente des marches est quasi impossible. Et ça s'est avéré qu'avec le Kyogo, bien, ça a complètement changé sa démarche. Et aujourd'hui, elle est capable de monter des montagnes, en fait.
Incroyable.
Alors, pour elle, c'était très, très, très miraculeux, là. Et ça arrive très souvent, en fait, parce qu'à chaque fois que quelqu'un l'essaye, on a un taux de satisfaction de plus de 80 %. La problématique arrive lorsqu'on doit l'acquérir à un coût aujourd'hui de 45 000 $ non remboursé.
Ouais.
C'est là que la courbe et les statistiques descendent. Mais honnêtement, c'est plus de 80 % de satisfaction aux essais. Ça nous fait dire que ces efforts-là sont pas en vain, c'est sûr, mais ça fait simplement solidifier ce que tu pensais qui pouvait arriver. Puis ça fait du bien.
Vous travaillez évidemment avec Bétémia sur ce projet-là. Est-ce qu'au fond de vous, il y a encore autre chose à créer? Avez-vous envie de créer, à un moment donné, une nouvelle technologie complètement différente de celle-ci? Ou est-ce que vous mettez vraiment toutes vos énergies sur votre projet actuel?
Je pense qu'on est encore trop concentrés à satisfaire les actionnaires puis à satisfaire les patients aujourd'hui.
Vous êtes combien d'actionnaires actuellement?
25 à peu près. Donc, la plupart des investisseurs privés, quelques groupes à New York et à Toronto. Bétémia est toujours une entreprise privée, non publique aujourd'hui. Okay. Donc, beaucoup plus facile à s'organiser. Ouais. En pleine maturation. Donc, c'est le modèle que nous avons aujourd'hui.
Ce que j'aime, là, c'est qu'au cœur de Bétémia, le feeling, la perception que j'ai, c'est que t'as comme, oui, il faut faire de l'argent, mais il faut aussi s'occuper de notre client.
Oui.
C'est rare. Ton client, pour toi, c'est le milieu de ta business.
C'est la raison d'être de cette aventure-là. L'objectif, c'est de réellement arriver à offrir une solution complètement différente avec des bénéfices significatifs aux personnes qui en ont besoin.
Si vous aviez des conseils à donner peut-être à des futurs jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait quoi?
Je me trouve très jeune pour donner des conseils. Je pense qu'il faut s'assurer de prendre les moyens pour se tenir droit sur notre objectif. S'assurer qu'on s'entoure des personnes qui ont la même réflexion et la même vision que nous. Et de toujours construire avec derrière la tête cet objectif-là. Bon, ça semble un peu ésotérique, là, mais c'est réellement la branche principale de tout ça. D'aller chercher des investisseurs privés, c'est aussi un excellent conseil. S'assurer de rapidement commencer sa réflexion commerciale, même au départ du design ou de l'idée, c'est aussi un conseil technique pertinent. Mais si on veut aller loin, puis si on veut être solide, puis si on veut un jour être en mesure de toujours contrôler notre aventure, il faut que tu t'assures que toutes les décisions qui sont prises ou tous ceux qui sont alentour de toi soient sur la même ligne directrice. J'ai refusé plusieurs millions de dollars à des investisseurs parce qu'ils n'étaient pas en ligne avec moi, parce que j'avais le flair, puis des fois l'intuition est souvent là, j'avais le flair de dire « mais semble, ça ne fera pas très très longtemps, mais ça m'aurait beaucoup facilité la vie de prendre 5 à 10 millions il y a un an ». Puis je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je ne sentais pas.
Stéphane Bédard, président fondateur de Bétémia, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Si jamais on veut en savoir plus ou davantage sur votre entreprise, on se rend sur quel site?
Il y a deux sites, donc pour l'entreprise et pour le produit Kyogo. Donc l'entreprise www.bétémia.com. www.ink.com,
oui,
comme ça s'écrit. Et par la suite, pour le produit, c'est www.kyogo.com.
Merci beaucoup, Stéphane.
Merci, Stéphane.
Ça fait plaisir.
Inspiration Inc. Les enseignements.
Philippe, quels seraient les enseignements, selon toi, de Stéphane Bédard?
La première chose qui a ressorti, c'est un homme d'affaires qui suit ses instincts.
Mm-hmm.
On dit souvent le « gut feeling ».
C'est important de s'écouter.
Ah, c'est important. Puis lui, en fait, il nous l'a dit, là, il a même déjà refusé 5 à 10 millions de financement parce qu'il sentait que son gut disait de ne pas le faire.
Ouais.
Ça m'amène sur l'autre point. C'est qu'il y avait son gut, mais il y avait aussi, c'est un homme de valeur. Les valeurs sont importantes pour lui. Tu vois, l'instinct l'a amené aussi. En plus des instincts qu'il disait de pas faire le deal, le personnage ou les gens devant lui n'allaient pas dans le même sens que son système de valeurs.
Donc, d'être capable de refuser une transaction de l'argent si on le sent pas aussi, ça rejoint pas nos valeurs personnelles.
Oui. Puis à la fin, troisième, ça serait de choisir ses partenaires financiers.
Mm-hmm.
OK? Parce que quand tu prends des partenaires financiers, des actionnaires, là, je parle, mais souvent, veux pas, ces actionnaires-là vont vouloir un rendement. Vont vouloir un peu te dicter ta ligne de conduite puis ce que tu fais dans tes journées. Puis lui, il dit, c'est le client, puis après ça, bien entendu, faire prospérer mes actionnaires. Mais le client est au centre. Il fait ça pour des gens, ces appareils-là. Et oui, il veut faire de l'argent, ce qui est normal.
Philippe Richard Bertrand, ça a été un plaisir de passer ce moment-là avec toi. Merci pour cette belle rencontre.
Merci.
Et si jamais vous êtes intéressé à participer à l'émission, à venir partager vos histoires d'entrepreneuriat, ben on vous invite à nous écrire au balado969@c'estquoi.com. Revenez-nous pour une prochaine capsule d'Inspiration Inc. Merci, Philippe.
Merci.
D'autres épisodes avec des passionnés, très bientôt sur c'estquoi.com. Inspiration Inc. Une présentation de Banque Nationale. Réalisons vos idées. Balado 96.9.